Alors, pour vous qui restez ici, vous pouvez ouvrir votre Bible dans l'évangile de Jean au chapitre 20. Je fais une série de prédications dans l'évangile de Jean où on suit des rencontres que Jésus a faites avec différents individus. On a vu Nathanaël, Nicodème, etc. La dernière fois, on s'est arrêté sur la rencontre de Jésus avec Pilate. Et aujourd'hui, donc, on arrive à la rencontre de Jésus avec Marie au tombeau. Donc on va lire Jean 20, à partir du verset 1 jusqu'au verset 18. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rendit au tombeau dès le matin, comme il faisait encore obscur. Et elle vit que la pierre était enlevée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait, et elle leur dit « On a enlevé du tombeau le Seigneur !» Et nous ne savons pas où on l'a mis. Pierre et l'autre disciple sortirent pour aller au tombeau. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se baissa, il vit les bandelettes qui étaient là, pourtant il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva. Il entra dans le tombeau, aperçut les bandelettes qui étaient là, et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandelettes, mais roulé à une place à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au tombeau entra aussi, il vit et il crut. Car il n'avait pas encore compris l'écriture selon laquelle Jésus devait ressusciter d'entre les morts, et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le tombeau et vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit « Parce qu'on a enlevé mon Seigneur et je ne sais où on l'a mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu ? » Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « maître ». Jésus lui dit « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon père, mais va vers mes frères et dis-leur que je monte vers mon père et votre père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine vint annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Donc voilà ce récit de la résurrection où Jésus rencontre Marie au tombeau, qui est en fait la première chrétienne de l'histoire, on pourrait dire. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu les élections américaines dernièrement. J'ai suivi un petit peu, on est forcé de le suivre un petit peu, même si ça ne nous intéresse pas beaucoup, parce que c'est la première puissance mondiale. On a tous tellement peur que Donald Trump arrive au pouvoir qu'on suit un petit peu ce qui se passe. Et si vous avez suivi un tout petit peu comme moi les élections américaines dernièrement, vous avez peut-être remarqué qu'il y a un livre qui est mentionné, voire même cité par presque tous les candidats à l'élection, qu'ils soient de gauche ou de droite d'ailleurs. C'est un livre qui s'intitule « La grève », je crois, en français, qui est écrit par une femme qui s'appelle Ayn Rand. Et juste pour vous dire que c'est quand même quelque chose d'obscur, c'est le deuxième livre le plus répandu, le plus vendu, le plus lu aux États-Unis après la Bible. Donc c'est quelque chose d'important là-bas. Et dernièrement, j'ai suivi une interview de cette femme, donc Ayn Rand, je pense qu'il date déjà d'il y a une dizaine d'années, parce qu'elle doit être décédée aujourd'hui. Elle disait la chose suivante concernant la foi en Dieu. Okay, je vous dis juste ce qu'elle disait. Elle disait « Je suis contre Dieu pour la raison que je ne veux pas détruire la raison. » Je répète, je suis contre Dieu pour la raison que je ne veux pas détruire la raison, c'est-à-dire la raison humaine, le raisonnement. Alors, je vous la cite pas parce qu'elle dit quelque chose de très intéressant, mais parce qu'elle dit quelque chose de populaire, de très répandu autour de nous. Vous pouvez discuter avec vos amis, vos collègues, vous remarquerez très rapidement que particulièrement en France, il y a cette idée que il y a une vie qui consiste à être lucide, à faire usage de sa raison pour se débarrasser des mythes et des superstitions religieuses, et pour, par sa raison, s'échafauder toute une vision du monde qui nous permet de vivre et de faire face à la mort dignement, on va dire. C'est un peu le je pense donc je suis version populaire. Et à l'inverse, pour beaucoup de Français, à l'inverse de cette lucidité, soi-disant, il y a la crédulité des croyants, des chrétiens notamment, qui, certains diront par confort, choisissent de croire à quelque chose d'invraisemblable, mais de rassurant, parce que ça donne un sens à la vie et une espérance face à la mort. Vous avez sûrement eu des personnes, ça m'arrive souvent, des personnes que je rencontre et qui disent, c'est bien pour toi si ta foi te fait du bien. Hein, si c'est vrai pour toi, tant mieux. Voilà, c'est bien pour toi, mais ça s'arrête là. On entend ça très régulièrement, n'est-ce pas? Et derrière ce genre d'affirmation, il y a vraiment cette opposition entre, d'une part, la raison et la foi. Et cette opposition qui existe donc dans l'esprit de beaucoup de nos contemporains entre la raison et la foi, on la retrouve bizarrement aussi chez beaucoup de chrétiens. Par exemple, avec cette tendance qu'on peut avoir tous, hein, nous aussi, de séparer un peu ma vie de foi, donc ma piété personnelle, le culte du dimanche matin, avec tout le reste de mon existence. Donc je passe les 6 jours que dure la semaine de travail à utiliser mon raisonnement, mon intelligence, mais une fois que le dimanche arrive et que je passe le pas de la porte d'entrée de l'église, tout ça ne compte plus. Et ce qui importe, c'est quoi? C'est que Dieu, Jésus-Christ, sa mort, sa résurrection, le salut, tout ça soit vrai pour moi, que je ressente ces choses comme vraies pour moi, peu importe si elles sont objectivement, historiquement vraies, et donc pas seulement vraies pour moi, mais pour les autres aussi. Et que de croire ces choses-là, ça n'affecte pas seulement ma vie de piété personnelle, mais chaque aspect de mon existence. Mais dans notre passage ce matin, Dieu nous montre que la foi chrétienne ne consiste pas à espérer ce qui n'est pas vrai, mais à avoir des certitudes à propos de ce qu'on ne peut pas voir. La foi, je répète, ne consiste pas à espérer ce qui n'est pas vrai, mais à avoir des certitudes à propos de ce qu'on ne peut pas voir. Et Dieu invite celui ou celle qui se met à l'écoute de sa parole, ici dans ce passage, à se méfier de soi, se fier aux évidences, et dernièrement, se confier dans le bon berger. Ça, c'est les 3 attitudes que Dieu demande de notre part ce matin par ce passage. Se méfier, se fier, se confier en fonction de s'il s'agit de nous-mêmes, des évidences, par exemple de la résurrection ou de Jésus-Christ lui-même. On va venir à ces 3 points dans un instant, mais avant, j'aimerais juste faire une remarque générale qui concerne plus le récit de la résurrection qui nous est rapporté dans les évangiles, vraiment de manière générale. Vous savez certainement que autant Matthieu que Marc, que Luc, que Jean ici nous rapportent le récit de la résurrection. Et si on lit les 4 récits côte à côte et qu'on les compare, qu'est-ce qui nous frappe? Je ne sais pas si ça vous est arrivé déjà de lire les récits de la résurrection et de les comparer un petit peu. Qu'est-ce qui nous frappe? Les différences. Merci. Exactement. C'est les différences qui existent entre ces 4 témoignages. Et on se pose la question, du coup, mais si ce récit de la résurrection est réellement véridique, pourquoi de telles différences? C'est une question qui est importante à se poser. Et vous allez voir que non seulement la question est importante, mais la réponse à cette question, même si elle est assez simple, je vais pas rentrer dans les détails, mais la réponse à cette question est extrêmement importante et elle est très concrète, pratique pour nous ce matin. Okay? Donc juste avant de vous montrer ça, je vous donne juste quelques-unes de ces différences. Il y a une différence, première différence, dans ces 4 témoignages, dans le nombre des protagonistes. Combien il y a de personnes dans le récit de Jean ici? Ou combien de femmes, disons plutôt des choses comme ça? Parce qu'après, il y a les deux disciples qui viennent. Il y a une seule femme, c'est Marie-Madeleine ou Marie de Magdala, c'est la même personne. Alors que Matthieu, lui, nous dit que cette même Marie, elle est venue au tombeau avec une autre Marie. Marc, lui, il mentionne Marie-Madeleine, mais aussi Marie, la mère de Jacques, et Salomé. Donc on n'a plus une, ni deux, mais trois femmes. Alors que Luc, lui, nous dit qu'il y avait carrément tout un groupe de femmes qui étaient présentes au tombeau ce jour-là. Il mentionne Marie-Madeleine, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres femmes qui étaient avec elle. Vous voyez, il y a déjà quelques différences ici, dans le nombre des personnes qui sont présentes au tombeau. Mais pour autant, les récits ne se contredisent pas. Tous les évangiles s'accordent pour dire une chose. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent tous que Marie-Madeleine était bien présente au tombeau ce matin-là, probablement avec un groupe de femmes. Et en fait, si vous lisez bien, vous remarquerez que Jean est au courant de ça. Si vous regardez le verset 2, qu'on a lu tout à l'heure, Jean 20, verset 2, Jean écrit: Elle, c'est-à-dire Marie-Madeleine, courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait. Et elle leur dit: On a enlevé du tombeau le Seigneur et nous, pluriel, nous ne savons pas où on l'a mis. Non. Même si Jean ne mentionne pas toutes les femmes, implicitement, il est en train de nous dire, Marie n'était pas seule au tombeau. Elle parle de la part de tout un groupe de personnes. Donc voilà une première différence. Rapidement, une deuxième, je vous en donne que deux, hein, je m'arrêterai là. Deuxième différence, non pas dans le nombre des protagonistes, mais dans la séquence des événements. Vous allez voir dans un instant pourquoi je vous parle de ça. Ça a une importance, ok? Donc dans la séquence des événements. Chez Matthieu, Marc et Luc, pardon, c'est seulement après avoir rencontré les anges que les femmes retournent vers les disciples pour leur raconter ce qu'elles ont vu. Alors que chez Jean ici, on assiste de nouveau à autre chose, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui nous dit Jean? Il nous dit que Marie a simplement vu le tombeau ouvert, probablement de loin, et qu'elle est revenue vers les disciples, et c'est seulement plus tard qu'elle a rencontré les anges et puis le Seigneur ressuscité. Et entre ces deux épisodes, Jean inclut un autre épisode qui est cette course-poursuite, on pourrait dire, entre Pierre et l'autre disciple, qui est très probablement Jean lui-même. Hein. Donc cette course-poursuite entre Pierre et Jean. Ok. Pourquoi ces différences, ces deux différences, et qu'est-ce que ça nous change? Pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi je vous en parle? La première chose qu'il faut se rappeler, c'est que, imaginez la situation suivante. Hein. Imaginez un policier qui fait une enquête et qui doit interroger deux suspects séparément. Il va le faire séparément, bien évidemment. Si les deux suspects lui racontent exactement la même version des faits jusqu'au moindre détail près, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que le policier va se dire? Il va se dire, les deux suspects se sont concertés avant pour élaborer une histoire crédible jusque dans les moindres détails, n'est-ce pas? Et ça peut paraître bizarre, mais en fait, c'est seulement les témoignages véridiques qui souffrent, on pourrait dire, parfois d'une certaine imprécision. Je vous donne un exemple. Imaginez que à la fin du culte, quand vous sortez de la pièce ici, je vous donne à chacun une feuille de papier et je vous demande d'écrire dessus le déroulement du culte. Je suis certain qu'on arriverait à des résultats très différents. Probablement complémentaires, mais très différents. Pourquoi? Tout simplement parce que chacun d'entre nous s'arrête sur les détails qui comptent à ses yeux, sur les détails qui importent pour lui. Et c'est justement ça qu'il faut comprendre, et c'est ça qui est important à voir dans ces différences. Les différences qui peuvent exister entre les témoignages des quatre évangiles nous donnent un aperçu unique de quelles sont les préoccupations spécifiques à chacun des auteurs. Et dans le cas qui nous concerne, si Jean a laissé de côté certains détails pour se focaliser sur d'autres, si on le compare avec les autres évangiles, ça nous permet de savoir quel est son fardeau en fait, quel est le message qu'il veut nous transmettre absolument, qu'est-ce qui est au cœur de son message. Et en l'occurrence, je crois qu'il y a deux choses. Maintenant qu'on a comparé un tout petit peu les récits, il y a deux choses qui sont spécifiques à Jean. Jean laisse de côté toutes les femmes pour s'intéresser à une d'entre elles, Marie-Madeleine. Pourquoi? Parce qu'il veut nous dire quelque chose à travers elle. C'est pour ça. Il veut nous montrer quel est le cheminement de l'incrédulité à la foi au travers de l'exemple de Marie-Madeleine. Quel chemin des larmes à la joie, des ténèbres, elle vient au tombeau lorsqu'il fait encore nuit, quel cheminement des ténèbres à la lumière lorsqu'elle rencontre enfin le Seigneur ressuscité. C'est la première chose. Puis deuxièmement, il intercale cette course-poursuite, comme j'ai dit, entre Pierre et Jean jusqu'au tombeau. Pourquoi, là encore? Dans le but, je pense, de nous montrer que ce n'est pas la simple connaissance ou la simple conviction même quant aux évidences de la résurrection qu'on peut avoir qui permet la foi. Il faut aussi une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Autrement dit, il suffit pas d'être, et je développerai ça tout à l'heure, il suffit pas d'être convaincu que le tombeau est vide, mais il faut aussi placer sa confiance dans le Seigneur ressuscité. Bon, on va venir à ces choses dans un instant, mais vous avez compris du coup que le thème principal ce matin, c'est vraiment la question de la foi. Une foi, comme j'ai dit, qui ne consiste pas à espérer ce qui n'est pas vrai, mais à avoir des certitudes par rapport à des choses qu'on ne voit pas. Et que chacun d'entre nous, donc, est appelé à se méfier de soi, à se fier aux évidences et à se confier dans le bon berger. Tout d'abord, donc, première partie, se méfier, c'est les versets 1 et 2. Et je vous propose qu'on les relise ensemble. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rendit au tombeau dès le matin, comme il faisait encore obscur. Et elle vit que la pierre était enlevée du tombeau. Elle courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait. Elle leur dit: On a enlevé du tombeau le Seigneur et nous ne savons pas où on l'a mis. Ces versets nous montrent que s'il est vrai que la foi chrétienne n'est pas irrationnelle, et c'est ce qu'on va voir dans un instant, c'est le deuxième point, elle n'est pas pour autant rationnelle dans le sens habituel du terme. Il faut vraiment être précis. La foi chrétienne n'est pas rationnelle dans le sens où on peut y parvenir, ou dans le sens où elle est accessible par le seul usage de la raison humaine. À quoi est-ce qu'on le voit ici? On le voit au fait que les disciples dont Marie-Madeleine faisait partie, bien que sachant que Jésus allait ressusciter, leur première réaction face au tombeau vide, c'est quoi? C'est de dire, quelqu'un a volé le corps. C'est ça leur première réaction face au tombeau vide. Alors, il faut quand même savoir que cette idée n'était pas totalement bizarre. C'est quelque chose qui arrivait fréquemment à l'époque, cette profanation des tombeaux. C'était tellement habituel que l'empereur Claudius, quelques années seulement après la mort de Jésus, a dû mettre en place une loi qui autorisait la punition de mort pour de tels criminels, pour les profanateurs. Donc c'est pas totalement bizarre que Marie soit arrivée à cette conclusion, mais quand même, David nous a lu un passage avant où Jésus annonce sa résurrection de manière voilée, mais par exemple dans l'évangile de Marc, à trois reprises, Jésus annonce clairement qu'il fallait que le Fils de l'homme, en référence à lui-même, soit mis à mort, mais que 3 jours après sa mort, il ressusciterait. Donc on pourrait dire même le timing était donné. C'était tellement précis que, venez peut-être voir avec moi en Matthieu 27, que même des personnes qui n'étaient pas du tout des disciples proches de Jésus étaient parfaitement au courant de ça. Matthieu 27. Matthieu 27 et à partir du verset 62, on est juste après la mort de Jésus. Matthieu 27, 62. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble trouver Pilate et dirent: Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur, en référence à Jésus, a dit quand il vivait encore: Après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc qu'on s'assure du sépulcre jusqu'au troisième jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple: Il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit: Vous avez une garde, allez, assurez-vous de lui comme vous l'entendrez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre après avoir scellé la pierre et posté la garde. Donc, vous voyez, tout le monde savait, même des gens qui n'étaient pas des proches disciples de Jésus, tout le monde savait que Jésus avait annoncé sa mort et sa résurrection. Pourtant, lorsque ça arrive, personne ne le croit. Et ça nous montre que sans une intervention surnaturelle de Dieu, la foi est impossible. Il y a un aveuglement spirituel. Tout être humain est dans une condition de cœur qui le rend insensible, aveugle à la réalité de Dieu. Mais pourquoi? Pourquoi cet aveuglement spirituel et cette incapacité à croire? Je crois que une partie de la réponse, et certainement pas toute la réponse, mais une partie de la réponse, c'est que on a tous des raisons affectives, psychologiques ou surtout morales de ne pas croire en Dieu. Alors certains diront que c'est vrai, il y a aussi des raisons, on pourrait appeler affectives et psychologiques, de croire en Dieu et dans sa révélation, parce que, comme je disais, ça donne un sens à notre vie. Tout d'un coup, lorsqu'on place notre foi dans le Seigneur, notre vie prend un sens qu'elle n'a jamais eu et on a une espérance ferme face à la mort. C'est vrai, mais l'inverse est vrai aussi. D'autant plus vrai, nous avons tous des raisons de ne pas croire en Dieu. Et peu de personnes ont suffisamment, je ne sais pas comment il faudrait dire, de lucidité, de franchise peut-être, pour admettre ça, qu'ils ont des raisons de ne pas croire. Mais je vais vous lire juste quelques mots de quelqu'un qui a admis avoir des raisons de ne pas croire. Il s'agit d'un écrivain qui s'appelle Aldous Huxley, vous le connaissez peut-être, c'est un écrivain du XXe siècle qui a écrit un livre qui s'appelle Le meilleur des mondes, par exemple, c'est le plus connu. Et voilà ce qu'il écrit. Il dit « Pour moi-même, comme sans aucun doute pour la plupart de mes contemporains, la philosophie du néant, c'est-à-dire qui se basait sur le postulat que Dieu n'existe pas, la philosophie du néant était essentiellement un instrument de libération d'un certain système de morale. Nous contestions la morale parce qu'elle s'opposait à notre liberté sexuelle. » Et puis il poursuit comme ça. « J'avais des raisons de vouloir que le monde n'ait pas de sens. J'affirmais par conséquent qu'il n'en avait pas, et je trouvais sans difficulté des raisons satisfaisantes pour justifier cette affirmation. » Et voilà comment il conclut. Il dit « Nous ignorons parce que nous ne voulons pas savoir. » Sous-entendu, nous ignorons la réalité de Dieu parce que nous ne voulons pas savoir. Vous voyez ce qu'il dit ? Il dit... Et ça recoupe ce qu'on disait pendant le catéchisme tout à l'heure. Je ne pensais pas que ce serait à ce point-là proche de ce qu'on voyait, mais il est en train de dire que personne n'est neutre devant Dieu, en fait. Hein, comme David le disait tout à l'heure, personne n'est neutre devant Dieu. À l'inverse, tout être humain a un certain intérêt à ce que les vérités de l'Évangile soient fausses. Que ce soit parce que les vérités de l'Évangile remettent en cause notre morale sexuelle, comme c'était le cas pour Aldous Huxley, ou peut-être plus probablement parce qu'on a eu une mauvaise expérience avec des personnes personnes insensibles qui se prétendaient chrétiennes et mais dont la vie n'était pas du tout en adéquation avec ce qu'ils prétendaient croire. Ça peut être pour ça qu'on a des raisons de ne pas croire. Ou peut-être simplement parce que l'idée même d'un Dieu qui est transcendant, qui est saint, qui me dépasse, qui est en même temps si proche et si impliqué dans sa création qui s'est incarné, de savoir qu'un Dieu comme ça a des attentes, qui peut avoir des attentes et des exigences envers moi, que cette idée-là me repousse parce que je ne veux pas de ça, je veux pouvoir gérer ma vie comme je l'entends, rester maître de mon existence, etc. On pourrait donner, n'est-ce pas, tout plein de raisons affectives, psychologiques ou morales de ne pas croire en Dieu. Mais vous voyez, ce que ça nous montre, c'est que je ne serai jamais neutre devant Dieu tant que je ne reconnaîtrai pas qu'il m'est parfaitement impossible, à moi pécheur, d'être réellement neutre devant Dieu. Comme Huxley disait, nous ignorons parce que nous ne voulons pas savoir. Et je crois que ça, c'est une première application pour nous ce matin de ces versets, que ce soit pour vous qui êtes non-croyants et qui vous intéressez à la foi chrétienne, ou pour nous qui sommes chrétiens et qui cherchons à partager notre foi. Dieu nous montre que la première chose qu'une personne doit faire avant de venir à lui, c'est de commencer par être sceptique face à son propre scepticisme. Hein, les Français aiment être sceptiques, je suis moi-même sceptique de tout. On est très sceptique. Et Dieu nous demande d'être sceptique face à notre scepticisme. C'est ça la première étape pour venir à lui. et reconnaître que voilà, nous avons des raisons, rarement intellectuelles, beaucoup plus souvent en fait morales, de ne pas vouloir croire en lui et dans sa révélation. Et donc pour nous qui sommes chrétiens, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on essaie de partager la foi, on n'a pas besoin d'essayer de répondre à toutes les objections peut-être intellectuelles qui sont là des personnes qui sont en face de nous, parce que bien souvent ces objections intellectuelles cachent en fait des raisons autres qui sont plus affectives ou morales de ne pas croire en Dieu. Et notre tâche, c'est avec amour d'amener nos amis, nos proches à reconnaître ça et à voir qu'il y a des obstacles qu'ils se mettent eux-mêmes dans leur chemin pour venir à Dieu. Voilà juste une première application. Et il y en a une deuxième qui découle un peu de la première, plus pour nous en tant que chrétiens. Parce que il y a un pendant, je crois, pour nous chrétiens, à cette réalité que l'homme sans Dieu se fie trop à lui-même, en fait, c'est ça, en croyant être neutre, alors qu'en fait, il ignore Dieu parce qu'il ne veut pas savoir. Il y a un pendant à cela aussi chez nous chrétiens. Parce que vous serez d'accord avec moi pour dire que, en tant que chrétien, on réalise bien souvent l'insuffisance et la faiblesse de notre foi, qui est bien souvent encore entachée par le doute, trop souvent encore entachée par le péché, notre égoïsme notamment, de croire pour nous parce que ça nous fait du bien, ou de croire dans le but de rendre Dieu redevable envers nous, de forcer sa main, on pourrait dire. Et face à l'insuffisance, la faiblesse, ou voilà, les erreurs qu'on peut de notre foi, on peut être amené à se poser la question, mais est-ce que j'ai réellement les bonnes motivations pour croire en Dieu? Est-ce que ma foi est suffisante? Est-ce que j'ai assez de foi? Et vous voyez, là, le problème est exactement le même. On se fie trop à nous-mêmes. Et en se fiant trop à nous-mêmes, on est vite écrasé. Parce que Dieu dit que la foi est impossible à l'homme, mais qu'à Dieu, tout est possible. Et je crois qu'il faut qu'on réapprenne dans notre vie de foi aussi, à dépendre de Dieu et à venir à lui, à lui dire, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité aussi. Voilà pour cette première partie, se méfier de soi. Et donc, on vient à la deuxième partie, se fier aux évidences. C'est les versets 3 à 10. Parce que, après que Marie ait raconté aux disciples ce qu'elle a vu probablement de loin, le tombeau ouvert, la pierre roulée sur le côté, les deux disciples, Pierre et donc probablement Jean, se précipitent au tombeau. Jean, qui est plus jeune, il a un peu plus de souffle, donc il arrive en premier au tombeau. Mais Pierre, on connaît bien son caractère impulsif, et c'est donc lui qui rentre le premier dans le tombeau. Il regarde ce qui est là, il voit que Jésus n'est plus là, son corps n'est plus là, les bandelettes sont restées ici. Et puis au verset 8, regardez, Jean le rejoint. Et on lit au verset 8, alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au tombeau entra aussi, il vit et il crut. Il vit et il crut. On vient de voir que la foi chrétienne n'est pas rationnel, j'ai dit, dans le sens précisément où on ne peut pas l'atteindre par le seul usage de la raison humaine, c'est dans ce sens-là que je le dis, mais parce que notre péché nous rend aveugles. Mais on voit ici, ça ne veut pas dire pour autant que la foi chrétienne n'est pas rationnelle, pardon, que la foi chrétienne est irrationnelle, excusez-moi. Certains penseurs chrétiens, particulièrement au XIXe siècle et puis au début du XXe siècle, qui s'opposait un peu à cette tendance moderne qu'on dirait héritée des Lumières, qui consiste à élever la raison humaine au-dessus de tout, hein, comme la référence ultime. Certains penseurs chrétiens ont eu un peu tendance à prendre le contre-pied inverse et à dire que la foi, finalement, la foi chrétienne, c'est quoi? C'est une sorte de saut dans le vide, hein, un saut vers l'inconnu, si on veut, au-delà de la raison. Mais cette manière de parler, c'est faux. La foi chrétienne n'est ni rationnel, dans le sens où j'ai défini il y a juste un instant, ni irrationnel. La foi chrétienne, elle est parfaitement raisonnable. En fait, elle est bien plus raisonnable que toutes les autres visions du monde qu'on peut élaborer à partir de soi-même. Tout d'abord parce qu'aucune autre vision du monde, et je vais pas m'étaler là-dessus, mais aucune autre vision ne rend mieux compte de la réalité qu'on observe autour de nous que la foi chrétienne. Pensez à l'unité et à la diversité du monde qu'on observe autour de nous, et qui s'explique non pas parce que tout est le produit du hasard, mais parce que le Dieu qui est à l'origine de toute chose est à la fois un Dieu unique, mais en trois personnes. Pensez au bien et au mal qu'on observe aussi, qu'on constate autour de nous, et qui coexistent. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que ce Dieu trinitaire a créé toute chose bonne, mais que les humains, la race humaine dans son entier s'est détournée de lui et par son rejet a permis au mal d'investir le monde. Pensez à l'amour et à la justice de Dieu. L'amour de Dieu pour ce monde qu'il a créé et sa justice qui doit être satisfaite de Dieu qui ne tolère pas le péché. L'amour et la justice de Dieu qui sont finalement réconciliés à la croix du Christ, où Christ s'offre à la place des pécheurs que nous sommes pour que nous puissions être réconciliés avec le Créateur. Et on pourrait énumérer toutes sortes de choses, d'autres choses qui montrent que la foi chrétienne, de par sa manière dont elle nous explique la réalité qu'on observe autour de nous, est bien plus raisonnable que n'importe quelle autre vision du monde qu'on pourrait avoir. Mais je ne m'arrêterai pas là-dessus parce que notre passage nous parle de la résurrection et c'est là-dessus que j'aimerais vraiment venir. La foi chrétienne est raisonnable parce qu'elle s'ancre dans des réalités historiques dont nous avons des évidences. Alors je ne vais pas répéter ce que David a dit il y a 2 semaines. On a eu notre culte de Pâques et David a parlé des évidences qu'on a de la résurrection. Je ne vais pas répéter ça maintenant. Ces évidences comme rapidement, donc le tombeau vide et les apparitions de Jésus à des centaines de témoins après sa résurrection, ou le fait que les premiers témoins de la résurrection soient des femmes, alors que dans la société de l'époque, les femmes n'étaient même pas acceptées comme des témoins valables dans un tribunal. Personne n'aurait inventé une histoire où les premiers témoins auraient été des femmes, et pourtant c'est le cas. Ou on pourrait encore parler de l'amplitude du mouvement chrétien dans les jours qui ont suivi la résurrection de Jésus à Jérusalem, où des milliers de Juifs se sont convertis au christianisme au péril de leur vie. Tous des éléments qui ne s'expliquent tout simplement pas, sauf si Jésus-Christ est réellement ressuscité. Et on pourrait énumérer comme ça beaucoup d'évidences, mais je ne vais pas le faire parce que David l'a fait il y a 2 semaines. Moi, j'aimerais juste m'arrêter sur un élément qui touche à la pensée des gens de l'époque dans la société antique. Parce que on souffre aujourd'hui dans notre société de ce que quelqu'un a appelé un snobisme chronologique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Qu'est-ce que j'entends par snobisme chronologique? Dans le cas de la résurrection, ce que j'entends, c'est que aujourd'hui, beaucoup de personnes vont dire que oui, mais les gens de l'époque, ils étaient quand même beaucoup plus crédules. Pour eux, de croire à la résurrection, bah, c'était normal. Alors qu'aujourd'hui, nous, bon, depuis une centaine d'années, on s'est débarrassé des mythes et des superstitions religieuses, et franchement, on ne croit plus à la résurrection aujourd'hui. Ça, c'est ce que j'appelle le snobisme chronologique. Parce qu'en fait, les Grecs et les Romains de l'époque, qui peuplaient le bassin méditerranéen, eux non plus ne croyaient pas à la résurrection corporelle. En fait, pour les Grecs et les Romains, ils voyaient les éléments physiques, dont le corps, comme la source du mal et de la souffrance, et l'esprit comme la source du bien et de la force. Et il y avait vraiment ce dualisme, si vous voulez, entre l'âme et le corps. Et le salut, ça consistait en quoi? Ça consistait simplement en la libération de l'âme du corps. Et donc, pour les Grecs et les Romains, la résurrection était non seulement impossible, mais absolument indésirable. C'était la dernière chose qu'ils auraient voulu. Voilà pour eux, mais les Juifs, comme les disciples, alors eux, ils avaient une conception du monde un peu différente parce qu'ils comme nous, bien sûr, on considère que le corps et le monde matériel fait partie de la bonne création de Dieu, mais les Juifs s'attendaient à une résurrection collective et à la fin des temps. Si vous pouvez aller lire par exemple le dernier chapitre du livre de Daniel, Daniel 12, on voit qu'il y avait cette espérance d'une résurrection collective et à la fin des temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ne s'attendaient pas à quoi? À une résurrection individuelle au beau milieu de l'histoire. Et c'est précisément ce qui arrive avec Jésus. Alors qu'est-ce que ça nous apprend, ça? Juste de réfléchir un peu à leur manière de penser aux Juifs, aux Grecs, aux Romains de l'époque. Ça nous montre que les Juifs auraient tout simplement même pas pu imaginer cette histoire parce que ça faisait même pas partie de leur système de pensée. Ne pensons pas que les Juifs, que les disciples étaient tellement crédules et qu'ils s'attendaient tellement à une résurrection de Jésus qu'au moindre signe que ça aurait pu se passer, ils ont imaginé toute une histoire. Ils étaient au moins aussi incrédules que nous. Alors qu'est-ce qui explique ce changement complet de pensée? Parce qu'on les voit plus tard dans le livre des Actes prêcher une résurrection individuelle de Jésus au beau milieu de l'histoire. Qu'est-ce qui les a amenés à accepter quelque chose qu'ils n'auraient même pas jamais cru possible, même pas imaginé? C'est justement ce que j'aimerais vous montrer, c'est qu'ils se sont fiés aux évidences. Regardez encore une fois le verset 6. Verset 6. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva, il entra dans le tombeau, aperçut les bandelettes qui étaient là et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandelettes, mais roulé à une place à Paris. Il regarde aux évidences et il raisonne. Il se dit, si d'autres disciples étaient venus prendre le corps de Christ pour le cacher quelque part, ils l'auraient emmené enveloppé, tel quel, ou alors on retrouverait les bandelettes déchirées ou pêle-mêle comme ça, par terre dans le tombeau. Si à l'inverse des voleurs étaient venus pour dérober le corps de Christ, pourquoi est-ce qu'ils auraient laissé derrière eux des étoffes qui étaient aussi précieuses dont on se servait pour embaumer le corps? Et petit à petit, en se fiant aux évidences, ils comprennent, à l'inverse, au contraire de, à la différence de Marie, que le tombeau vide ne peut pas être le fait de profanateurs, mais qu'il s'est passé quelque chose, qu'il y a une main invisible à l'œuvre, qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Et c'est pour ça qu'on lit au verset 8. Alors l'autre disciple qui est arrivé le premier au tombeau entra aussi, il vit et il crut. Il vit et il crut. Mais, et c'est la dernière chose que je vais dire dans cette deuxième partie, cette foi n'est qu'un embryon de foi très fragile, extrêmement fragile. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que si vous regardez la suite, il nous est dit, verset 9, car ils n'avaient pas encore compris, mais en fait, il faut plutôt traduire autrement, c'est pas très bien traduit, car ils ne comprenaient pas encore, car ils ne comprenaient pas encore l'écriture selon laquelle Jésus devait ressusciter d'entre les morts, et les disciples s'en retournèrent chez eux. Ils voient le tombeau vide, ils comprennent qu'il s'est passé quelque chose d'anormal, mais ça s'arrête là. Et ça explique qu'ils rentrent simplement comme ça chez eux, sans même chercher Jésus. S'ils avaient compris qu'il était réellement ressuscité, ils ne seraient pas rentrés comme ça chez eux. Et ça explique aussi qu'au verset 19, si vous regardez un peu plus bas, on les retrouve le soir de ce même jour, enfermés par crainte des Juifs. Regardez, le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées par la crainte qu'ils avaient des Juifs. Ils n'ont qu'un. Pierre et surtout Jean n'ont qu'un embryon de foi extrêmement fragile. On dit habituellement que qu'une foi authentique, une vraie foi qui sauve, elle est composée de trois éléments. Et on utilise souvent l'illustration d'une personne qui s'assied sur une chaise pour illustrer un peu ça. Il faut la connaissance, il faut connaître qu'il y a bien une chaise qui est là sur laquelle je peux m'asseoir, connaître, il faut savoir que le tombeau est vide. Mais il faut aussi la conviction, par exemple, que la chaise peut supporter mon poids, ou dans notre cas, qu'il s'est bien passé quelque chose de surnaturel. Il faut la connaissance, il faut la conviction, mais il faut aussi un troisième élément que les disciples n'ont pas à ce stade. Et c'est la confiance. La confiance pour s'asseoir sur la chaise. Et c'est ce qu'on va, c'est la dernière chose que j'aimerais vous montrer. On a vu qu'il faut se méfier de soi, se fier aux évidences, et dernièrement, donc, se confier dans le bon berger. C'est le verset 11 et suivant. On retrouve Marie en pleurs, en larmes, après avoir rencontré deux messagers. Elle se retrouve finalement face à Jésus, mais qu'elle ne reconnaît pas. Regardez le verset 15. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Est-ce que cette question-là ne vous surprend pas un peu? Qui cherches-tu? Est-ce que Jésus ne savait pas qu'elle cherchait? Ça paraît étrange qu'il lui demande « Qui cherches-tu? » C'est évident qu'elle cherche, n'est-ce pas? Et je crois que la raison pour laquelle Jésus pose cette question, c'est qu'il veut montrer à Marie que sa conception de lui, la conception que Marie a de Jésus, malgré son attachement pour lui, elle est en pleurs, mais malgré son attachement pour lui, sa conception de Jésus est beaucoup trop étriquée ou réductrice. Elle cherche un cadavre. C'est ça qu'elle cherche. Elle cherche un Jésus mort, pas le Jésus vivant et victorieux qu'elle a vraiment en face des yeux. Et je crois que ça doit vraiment nous interpeller, nous aussi, parce que on a aussi une conception, bien souvent, de Jésus qui est beaucoup trop réductrice, accommodante pour nous. On recherche un Jésus qui, souvent, n'est pas celui qu'il est en réalité, n'est-ce pas ? Et qui répond à nos besoins, qui rentre dans nos catégories, qui ne va pas renverser trop nos échelles de valeur. Mais si Christ est ressuscité, et il est ressuscité, au beau milieu de l'histoire, alors ça veut dire que l'œuvre entreprise par Dieu pour renouveler toute la création, cette œuvre-là a commencé et que rien de ce que nous sommes, en tant que mari, que fiancé, qu'étudiant, qu'artiste, rien de ce que nous sommes, rien de ce que nous faisons, par notre travail, par notre engagement culturel, par nos relations, rien de tout ça ne peut rester tel quel, sans être affecté par qui il est en tant que Seigneur ressuscité. Parce que en le ressuscitant, Dieu a établi Jésus-Christ comme Seigneur sur toute chose et sur chaque aspect de notre vie. Et donc, d'avoir une foi qui se limite à ma vie de piété, à ma vie personnelle, et qui ne touche aucun autre aspect de ma vie, ce n'est pas possible. Et on doit apprendre en tant que chrétien à raisonner et à comprendre comment est-ce que l'évangile affecte chaque aspect de ma vie, chaque chose que je fais. Vous aurez remarqué que cette question « Qui cherches-tu ?» elle ne suffit pas à réveiller Marie. Qu'est-ce qui est le déclic vraiment? Qu'est-ce qui l'amène à voir « Ah tiens, c'est Jésus ». C'est ce qu'on voit au verset 16, n'est-ce pas? Verset 16, voilà le déclic. Jésus lui dit « Marie ». Marie. Il l'appelle par son prénom. Et je crois qu'il y a un clin d'œil qui ici fait à un autre passage qu'on trouve un peu plus tôt dans l'évangile, en Jean 10, où Jésus se présente comme le bon berger et il dit la chose suivante, il dit que les brebis entendent sa voix, le bon berger appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les mène dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes celles qui lui appartiennent, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Le bon berger appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. » Voilà, Marie. Et si Jésus l'appelle par son prénom, c'est parce que la foi authentique, une véritable foi qui sauve, est toujours personnelle. C'est vraiment ça, en fait, que j'aimerais. S'il y a une chose à retenir, c'est vraiment ça, ici. Si la mort et la résurrection de Christ sont des choses que vous ressentez comme vraies dans votre cœur sans croire qu'elles sont objectivement, historiquement vraies, c'est-à-dire vraies aussi pour tout le monde, alors votre foi est vaine. C'est ce que Paul nous dit. Si Jésus n'est pas ressuscité, objectivement, historiquement, alors votre foi est vaine. Mais à l'inverse, si vous croyez seulement que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour pardonner les péchés de manière générale, sans croire que Jésus est mort et ressuscité pour vous, alors vous ne vous accrochez pas à lui réellement par la foi. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez très bien avoir la connaissance de l'état pécheur de l'homme, de l'œuvre accomplie par Christ à la croix. Vous pouvez très bien avoir la conviction que tout ça est vrai, que le diagnostic de la Bible concernant l'état du cœur de l'homme est juste, que Christ est bien ressuscité d'entre les morts. Mais tant que vous vous arrêtez là, il manque quelque chose. Tant que vous ne croyez pas que ces choses sont vraies vous concernant et pour vous, spécifiquement pour vous, et tant que vous ne placez pas votre confiance en Christ comme votre sauveur, alors vous ne vous accrochez pas à lui réellement par la foi. Et votre foi n'est pas authentique, ce n'est pas une foi qui véritablement peut vous sauver. Comme on la voit démontrée ici par Marie. Et je crois que tout ce passage, vous voyez, nous montre vraiment la progression de Marie qui est incrédule au départ. On voit les disciples avoir la connaissance des choses, une conviction qu'il s'est vraiment passé quelque chose, mais c'est Marie qui, la première, place sa confiance dans le Seigneur ressuscité. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est vraiment la première chrétienne, on pourrait dire, de l'histoire. Et c'est à elle, du coup, et à tous ceux qui ont placé toute leur confiance en Christ, que les derniers versets s'adressent rapidement, verset 17. Jésus lui dit, ne me touche pas, et là encore la traduction n'est pas tout à fait exacte, Jésus lui dit, cesse de me toucher. Probablement que de joie, Marie s'est jetée au cou de Jésus, qu'elle a retrouvé. Et Jésus ne l'interdit pas de la toucher, mais lui dit, cesse de me toucher. Pourquoi? Et c'est ce qu'il explique par la suite. Parce que sa mission n'est pas terminée, en fait. C'est ce qu'il dit. Car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Et il lui donne à elle une mission. Mais va vers mes frères, c'est-à-dire vers les disciples, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Et voilà l'exemple ultime je termine par là, de ce que Jésus-Christ ne nous sauve pas simplement de quelque chose, de nos péchés, de la condamnation. C'est vrai, mais il nous sauve aussi pour quelque chose. Pour faire partie de cette nouvelle création qu'il a inaugurée par sa mort et sa résurrection. Pour faire partie de cette famille nouvelle avec Dieu pour Père et Jésus-Christ pour frère. On ne peut pas pleinement être conscient du miracle que ça représente de passer de la mort à la vie par la foi en Christ, dans sa mort et sa résurrection, tant que nous ne comprenons pas qu'il ne s'agit pas simplement d'un passage de la condamnation à la repentance. C'est aussi ça, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est un passage aussi de l'esclavage et du désespoir à la sécurité, l'assurance, la joie que nous apporte vraiment notre entrée dans la famille de Dieu et de faire partie de cette nouvelle création. Et je pense que c'est peut-être la chose qu'on a à se poser, hein, la question qu'on a à se poser, nous qui sommes chrétiens ce matin. Est-ce que nous vivons ça réellement au quotidien, que notre salut n'est pas un salut simplement de quelque chose, mais pour quelque chose, pour participer à cette nouvelle création et pour grandir dans notre intimité avec notre Père et marcher dans les traces de notre frère, notre grand frère. Alors que Dieu nous accorde dans les jours qui viennent et dans l'attente de cette nouvelle création, la résurrection corporelle qui nous attend si nous sommes en Christ, qui nous accorde cette foi réelle, qui, comme j'ai dit, n'est pas l'espérance de quelque chose qui n'est pas vrai, mais la certitude à propos de choses qu'on ne peut pas voir, que Dieu nous accorde cette foi en toutes circonstances et même dans les moments les plus durs qui ne vont pas manquer de venir, que nous puissions savoir que même jusque dans la vallée de l'ombre de la mort, hein, pour reprendre les mots du psalmiste, notre bon berger est là avec nous parce qu'il a été là avant nous. Et qu'il en est sorti vivant et victorieux. Je propose qu'on prenne maintenant quelques instants dans la prière. Je vous invite peut-être deux ou trois d'entre nous à nous conduire dans la prière. Je terminerai ensuite, nous chanterons un dernier cantique. Donc, prions et sentez-vous vraiment libre de prière au devant.